Donc, comme depuis un certain nombre de dimanches, nous continuons dans notre thème annuel qui est de restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres. Nous avons vu justement à travers ce texte de Ésaïe 58 comment que nous sommes appelés, comment nous sommes appelés justement à pas simplement juste adorer Dieu avec notre tête, comme les Israélites faisaient. Ils voulaient jeûner, mais en même temps, ils demandaient, mais Seigneur, tu ne nous réponds pas, il me semble qu'on jeûne, on fait plein de choses pour toi, et rien qui se passe. Et là, on rappelle, Dieu leur a dit, mais parce que vous jeûnez, puis pendant ce temps-là, vous continuez d'être méchants avec vos ouvriers, vous continuez d'être en colère, vous continuez d'avoir les mêmes attitudes. Donc, il y avait comme un désir, entre guillemets, d'adorer Dieu, de servir Dieu, mais en même temps de continuer la même façon. Et nous avons vu durant ces derniers mois la façon qu'on a besoin de restaurer notre relation avec Dieu, de dire, Seigneur, on ne veut pas juste venir le dimanche pour pouvoir t'adorer, te louer, et durant la semaine, on fait ce qu'on veut, on agit comme on espère le mieux possible, mais de vraiment dire, Seigneur, montre-moi comment je puisse être l'Église, comment je puisse être un véritable chrétien durant la semaine. Nous avons vu aussi depuis quelques semaines aussi comment restaurer notre relation avec les autres. C'est-à-dire aussi que lorsque nous sommes bénis, nous sommes transformés par Dieu, à ce moment-là, nous pouvons aussi être un témoin fidèle les uns avec les autres. Justement, vous avez entendu que on parle beaucoup de ces temps un peu de l'amour les uns les autres, de la fraternité, parce qu'on croit que c'est une façon de le faire et qu'on veut mettre les choses vraiment en pratique. Jean 13, verset 35, il dit, à ceci vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Donc cette amitié justement entre les frères et sœurs doit commencer par nous. Si nous, c'est vrai que c'est normalement plus facile de commencer d'aimer ceux qui sont proches de nous, d'aimer ceux qui ont un peu les mêmes ressemblances ou les mêmes valeurs que nous. Mais on a besoin de pouvoir le faire, pas juste dans le temps de la fraternité après le culte, mais durant la semaine. Voilà pourquoi que nous avons mis justement des objectifs un peu en place pour nous encourager à le faire. Le commentateur biblique McDonald dit, l'amitié fraternelle permet au monde de nous reconnaître comme les disciples de Christ. Les gens vont reconnaître que nous sommes des véritables disciples de Jésus-Christ à l'amour que nous avons les uns les autres. Et les gens de l'extérieur vont pas voir l'amour que nous avons quand nous sommes à l'église. Ils vont voir peut-être à travers les fenêtres qu'on est bien, qu'on se salue. Mais ils ont besoin de voir l'amour de Dieu entre nous durant la semaine, durant nos temps difficiles, durant peut-être nos maladies, nos temps de maladie, durant peut-être nos épreuves, nos temps difficiles que nous pouvons vivre. Et les gens vont vouloir goûter, les gens vont vouloir dire, mais comment tu fais pour pouvoir aimer de cette personne de cette façon? J'ai envie de goûter, j'ai envie de voir comment que Dieu peut aussi me transformer. Et le monde va reconnaître que nous sommes ses disciples, à l'amour que nous avons les uns les autres. Donc l'amour n'est pas d'abord une affaire d'émotion, mais de volonté. On a besoin de pouvoir agir, de pouvoir continuer, de pouvoir dire, j'ai besoin d'aimer. Oui, c'est vrai que c'est aimer facile peut-être une personne de la même culture que nous, ou d'aimer une personne qu'on a des mêmes liens peut-être de famille, ou peut-être les mêmes valeurs. Mais aimer quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui peut-être nous tape un peu sur le système, quelqu'un qui nous dérange de sa façon d'être, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc à ce moment-là, c'est comme un désir de volonté. C'est un commandement à obéir. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples quelque temps avant sa crucifixion. Donc, prochain dia. On a dit, je pense qu'on allait mettre quelques objectifs. Rappelez-vous, il y a une semaine, le frère Moussa nous avait interpellés et puis il nous avait demandé si on le faisait. Il n'y avait pas beaucoup de mains qui s'étaient levées. Aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a plus de mains. Donc, chaque personne qui appelle, ça fait comme deux personnes qui se contactent. Donc, moins de trois personnes seules interaction, ça c'est donc le dimanche, permettre que s'il y a des nouvelles personnes, s'il y a des personnes qu'on connaît moins, qui se trouvent seules, mais aller vers eux et de pouvoir connecter, de pouvoir simplement mieux le connaître. Téléphoner aux membres, six personnes s'appellent par semaine, ça c'est vrai que c'est le nombre total des personnes donc de l'Église. Donc si ça fait 6 fois 2, parce qu'on se téléphone, ça fait 12 personnes, donc ça fait quand même peut-être le tiers ou le quart de l'Église que qu'on le fait. Donc, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas un objectif trop grand, mais c'est pour nous encourager à le faire. Visite chez les personnes, 4 personnes qui visitent par mois, ça fait 8, peut-être 10, 12 personnes qui se visitent, qui se contactent. Donc, l'idée, ce n'est pas, on ne va pas mesurer, puis on ne va pas vous taper sur les doigts pour dire qu'il faut absolument faire une visite ou un téléphone. C'est non plus pas de vous obliger à faire quelque chose, mais comme on l'a dit, justement, on a besoin de pouvoir nous aimer les uns les autres. Et l'amour, comme on a dit, ce n'est pas juste une question d'émotion. Ah ben moi j'aime cette personne, puis je vais le téléphoner parce que je me sens bien. Mais que je puisse vraiment une volonté dire, Seigneur, tu m'as mis à côté des frères et sœurs, je veux pouvoir expérimenter Dieu, je veux pouvoir expérimenter cet amour aussi durant la semaine. Voilà pourquoi on vous demande justement d'avancer avec le Seigneur et de les encourager les uns les autres. Je crois que si nous le faisons d'une manière régulière, ça va venir comme une habitude de dire, mais j'ai besoin d'avoir des contacts, j'ai besoin de voir des personnes. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui, au Québec, on est une société très individualiste, où chacun fait ses affaires, où on veut plus déranger l'autre. Mais on a besoin, en tant que chrétien, de ne pas marcher dans cette façon, de ne pas marcher dans la direction de la pensée du monde, mais d'être capable de pouvoir se parler, s'encourager, même si on a des semaines très chargées, travail, famille, occupation, etc. On a besoin de juste simplement de connecter les uns avec les autres. On l'a vu dernièrement aussi avec le pasteur Herman, hein, qui nous a partagé que justement ce groupe WhatsApp, que son fils a été à l'hôpital et comment que on a vu les messages de prière, les encouragements. Donc on voit que sur WhatsApp, c'est vrai que c'est assez facile sur WhatsApp, hein, c'est un petit texte, ça prend 10-15 secondes pour écrire un texte, mais un téléphone, une visite permet d'aller plus en profondeur aussi avec les gens. Donc on vous encourage à continuer de le faire pour que nous puissions vraiment mettre cela en pratique. Nous avons vu aussi l'importance de porter nos fardeaux les uns les autres. Galates chapitre 6, verset 2, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Donc, il ne nous est pas simplement dit, aimez-vous les uns les autres quand tout va bien, mais quand ça va mal, quand il y a des difficultés, portez les fardeaux. Mais pour porter les fardeaux, il faut connaître le besoin. Il faut connaître la personne. Il faut s'intéresser à elle pour dire, mon frère, ma sœur, je sens que tu vis quelque chose. Raconte-moi, parle-moi. Je veux t'aider déjà à prier pour toi, à t'encourager, mais s'il faut peut-être à te soutenir financièrement, peut-être à venir avec toi par rapport à peut-être une situation pour t'accompagner. Donc, les fardeaux se réfèrent aux peut-être des manquements, tentations, épreuves, afflictions, mais le verbe porter nous aide à supporter le fardeau, à le porter avec lui pour qu'il soit plus léger. Donc, porter, ça ne veut pas dire simplement, mon frère, je vais prier pour toi. On entend souvent ça, hein? Ah, je vais prier pour toi. Puis après, on oublie de prier pour cette personne. Puis à la fin de la semaine, quand on voit le frère, on dit oui, j'ai pensé à toi. Mais au fond, on a pensé juste 2 secondes avant de le voir, hein. Mais on a besoin vraiment de nous encourager. Et voilà pourquoi que notre Église, on désire de vraiment mettre en pratique, de restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres. De pouvoir réellement faire le véritable jeûne, comme il est dit dans Ésaïe 58, afin que nos cœurs, afin que notre esprit puisse être changé par le Seigneur et que le monde voie et que le monde glorifie le Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer avec un thème qui est important aussi par rapport à restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres. C'est par rapport au domaine de la générosité. Nous avons eu, il y a 15 jours, Sandy Crozier, donc la responsable nationale de nos familles d'Église, qui encourage justement cette intendance, cette générosité les uns envers les autres et surtout envers l'Église, envers la mission. Et elle nous a parlé comment que Dieu était généreux envers nous. Et durant cette semaine, dans les temps de cellule, on a parlé, on a demandé aux gens, comment que vous voyez que Dieu est généreux avec vous? Et on a pu voir tellement de témoignages, hein. Moi, quand j'entends que Dieu est généreux, moi, la première chose, c'est cet amour que Jésus a pour moi. Me dire que lui, le Fils de Dieu, lui qui était au ciel, qui était sans péché, il est venu sur terre pour mourir pour moi. Tellement qu'il a accepté les crachats, la souffrance, d'être abandonné par ses amis, d'être décrié, trahi. Et il l'a fait pour moi. La générosité de Dieu, waouh, c'est quelque chose d'incroyable. Et il nous est demandé que cette générosité que nous avons reçue de la part de Dieu, nous puissions aussi la partager vers Dieu et vers les autres. Quand on parle de générosité, c'est vrai qu'on parle souvent peut-être du côté argent. Et c'est vrai que Dieu n'a pas besoin réellement de notre argent. Dieu est riche, il n'a pas besoin de notre argent, il a tout. Mais en étant généreux du côté financier, quelque chose qui est personnel, quelque chose qu'on a gagné, montre que nous acceptons que cet argent même gagné durement, c'est une grâce et un don de Dieu qui nous a donné et que nous voulons le donner aussi librement à Dieu et aux autres. On parle de générosité, c'est vrai qu'on parle beaucoup du côté financier, mais il y a d'autres domaines, d'être généreux du temps donné à d'autres personnes autour de nous, justement à travers la fraternité, de prendre un temps d'aller visiter une fois une personne, d'être généreux dans le partage de cet amour de Dieu vers les autres. Il y a différentes façons de vivre cette générosité. Si Dieu est plein de bonté envers nous, s'il nous demande d'être généreux, est-ce qu'il ne peut pas nous donner au-delà de ce que nous avons besoin, afin que nous puissions bénir justement son œuvre sur terre à travers l'Église? Alors regardons, et j'aimerais que vous puissiez prendre des notes. Je sais que derrière, il y a des petits papiers. Peut-être Jeanne peut le distribuer, parce que c'est important de prendre des notes, parce qu'on va mettre beaucoup de textes bibliques pour montrer, pour démontrer comment que la Bible enseigne par rapport à la générosité. Et c'est important parce qu'on ne peut pas tout se rappeler à une prédication après, durant la semaine. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des instructions très claires de comment donner son offrande ou comment il appelait sa dîme. Vous allez voir que ce n'est pas juste 10%, parce que c'est vrai que le mot dîme dit, entre guillemets, le dîme, le 10%. Mais voici un résumé rapidement ce que Dieu demandait à son peuple. Premièrement, il y avait la dîme de l'Éternel, c'est-à-dire un prévènement pour Dieu et pour ceux qui sont au service de Dieu dans le temple. Donc, comme les Lévites, comme les sacrificateurs étaient au service de Dieu dans le temple, ils ne pouvaient pas gagner eux-mêmes de l'argent. Donc, ils demandaient au peuple de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et on le voit dans Nombre chapitre 18, verset 21. Nombre chapitre 18, verset 21 qui dit: Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, un 10% que Dieu demandait à chaque Israélite de le faire. Ensuite, nous avons la dîme de la réjouissance. Ce prévènement était donné pour la fête annuelle, pour la famille, les amis, les serviteurs. Donc, Dieu est tellement concerné par les gens qu'il dit, il y a peut-être des personnes autour de vous qui n'ont pas forcément de l'argent. Alors, c'est l'occasion justement de pouvoir fêter ensemble, de célébrer et de partager. On le voit dans Deutéronome chapitre 12, verset 18. C'est seulement en présence de l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu qu'il choisira, que vous mangerez, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes et les Lévites qui résident dans votre ville. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, de tous les produits de votre travail. Moi, j'aime dans l'Ancien Testament parce que Dieu, c'est un Dieu de réjouissance. Il aime quand les gens sont ensemble, quand les gens se réjouissent, partagent un repas. Et c'est vrai que lorsqu'on partage un repas, une fête, ben, on vit cette réjouissance, on vit cette joie d'être ensemble. Et Dieu voulait justement qu'en se rassemblant, en donnant une partie de leur argent, de leur travail, ils puissent se réjouir ensemble. Mes prochains dias, on voit qu'il y a une troisième dîme qui était là à tous les 3 ans. Pour les pauvres. Ce prélèvement servait pour les pauvres du peuple afin de leur fournir de quoi vivre. Donc Dieu est concerné par les amis, la famille, les membres autour de nous, mais il est surtout aussi concerné par les pauvres, par ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà pourquoi il disait à tous les 3 ans, vous allez donner une dîme pour les pauvres. Deutéronome chapitre 14, versets 28-29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette troisième année et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Dieu avait à cœur que ceux qui n'avaient pas les moyens, qu'on puisse prendre soin d'eux à travers des dons du peuple. Donc, ça c'était à tous les 3 ans, donc c'est à peu près 3,3% par année. Donc, au total, ça fait plus de 23% que chaque Israélite devait donner comme dîme, 23%. Et ce n'était pas volontaire, c'était obligatoire. C'est vrai que quand on regarde les Juifs, les Israélites, c'est un peuple qui est vrai, qui était béni par Dieu, mais c'est un peuple qui sait compter avec l'argent. Et on voit autour de nous combien de Juifs hein, sont des hommes d'affaires et tout ça. Ils savent comment travailler avec l'argent, ils savent comment faire fructifier l'argent. Dieu leur a donné ce don parce qu'ils ont été aussi justement formés, instruits à comment donner pour le Seigneur. et Dieu les a bénis aussi en retour. Alors, on peut se dire, mais comment ils arrivaient à faire? Et c'est là le miracle de Dieu. Dieu leur avait donné beaucoup en leur donnant un pays découlant de lait et de miel et en les bénissant par des récoltes incroyables. Je suis allé en Israël lors de notre voyage de noces et on était dans un kibboutz et là, on a rencontré un Français, un juif français qui était parti là-bas après la guerre pour pouvoir revenir en Israël. Et il était dans le kibboutz. Dans le kibboutz, c'est comme une communauté ensemble. Et il nous parlait comment que dans la guerre, je ne sais plus si c'est 6 jours ou comme ça, ils étaient en train de se défendre devant les autres personnes qui voulaient les envahir. Et durant la nuit et la journée, ils travaillaient à changer le terrain. Ils nous montraient des photos que le sol était rocailleux avant. Et à force de travailler le terrain, à force de semer, de récolter, on a vu vraiment un kibboutz qui est complètement différent. Dieu donnait des grâces. Dieu donnait des grâces à ce peuple parce qu'ils obéissaient à ce que Dieu leur demandait dans l'Ancien Testament. Mais chose incroyable, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu demande encore des prémices des récoltes du bétail comme un signe de consécration à Dieu. Donc, les prémices, ça veut dire, c'est les premiers éléments, les choses les meilleures qui arrivent. Exode chapitre 23, verset 19, il dit, « Tu apporteras au sanctuaire de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de tes récoltes. » Donc, c'est comme il dit, « Mais avant que tu puisses bénéficier de tes récoltes, tu vas donner une partie. Tu vas me donner une partie à moi, Dieu. » Pourquoi? Pour dire, « Seigneur, oui, c'est toi qui m'as béni, c'est toi qui m'as donné une récolte, c'est toi qui as permis que ces plantes, ces semences poussent et donnent un fruit, un légume, quelque chose. Et je veux reconnaître ça en reconnaissant, en te donnant la première partie à toi. » Pourquoi que Dieu demandait la meilleure partie qui lui soit consacrée? Comme on a dit, Dieu n'avait pas besoin de l'argent, n'avait pas besoin des prémices des récoltes pour vivre. Mais il voulait voir là où était le cœur du peuple. En expliquant, en voyant l'importance de donner la meilleure partie à Dieu, ils changeaient leur cœur pour dire, c'est pas à moi, c'est pas mon argent que j'ai gagné, c'est pas les récoltes que j'ai fait parce que j'étais bon, parce que j'ai eu un bon terrain, mais c'est parce que c'est le Seigneur qui me l'a donné et je veux donner en retour. Puis Dieu demandait encore des offrandes volontaires pour des occasions spéciales. Il fallait que les personnes donnent de bon cœur, c'était une offrande volontaire. Exode chapitre 25, versets 2 et 3, et on voit dans les versets suivants, « Parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze. » Mais d'où venait cet or et cet argent? Dieu avait pourvu par l'intermédiaire d'un autre peuple. Vous vous rappelez pourquoi c'était? Les Israélites étaient pendant 400 ans des esclaves en Égypte. Lorsque Moïse est venu et a reçu l'ordre de sortir le peuple d'Égypte et le roi Pharaon n'en voulaient pas. Et à force de miracles, à force de persuasion de la part de Dieu, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple d'Égypte était tellement fatigué de voir tout ce que les malheurs qui arrivaient sur le peuple, qu'ils ont voulu comme chasser les Israélites en leur donnant plein de choses. On dit, on vous donne de l'or, des vêtements, du bétail pour que vous puissiez partir. C'était des esclaves. Donc, en étant des esclaves, ils n'avaient rien. Et si vous regardez dans Exode chapitre 36, versets 2 à 7, ils ont donné tellement. Comment donner? Les gens ont dit, les responsables ont dit à Moïse, dis au peuple d'arrêter de donner, il y a tellement. Est-ce qu'un jour, on verra un pasteur devant l'église dire, mes amis, mes membres, arrêtez de donner parce qu'il y a eu tellement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent. Hein? Généralement, c'est plutôt le contraire qu'on fait, on demande des fois souvent. Mais le Seigneur bénit quand les gens ont ce cœur généreux. Alors maintenant, prochain dia, regardons dans le Nouveau Testament. Nous savons que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais que nous sommes sous la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que normalement, nous ne sommes plus dans l'obligation de donner la dîme comme le faisait le peuple d'Israël. Même si encore, peut-être dans nos églises, on parle beaucoup d'offrandes ou de dîmes, mais nous sommes devenus des intendants, c'est-à-dire des gérants, des administrateurs des biens que Dieu nous donne. Cet or, cet argent qui nous appartient à Dieu et nous sommes des gérants. En Corinthiens, chapitre 4, verset 2, dit « Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée ?» Jésus a plusieurs fois donné des paraboles où justement il parle de cette intendance. Il parle comme le roi ou le propriétaire va partir, puis il confie ses biens à ses serviteurs. Et il demande que de faire fructifier En devenant des attendants, nous sommes plus sous le regard de quelqu'un de plus haut que nous, à qui nous devons obéir de faire ce qu'il nous demande. Nous sommes des intendants de Dieu. Donc Dieu est le propriétaire et nous devons gérer ce que Dieu nous donne, ce qui appartient à Dieu. Nous savons que tout appartient à Dieu, l'or, l'argent, le monde entier. Donc le premier point pour être un bon intendant selon Dieu, c'est de connaître notre Seigneur, sa nature et sa volonté. C'est d'avoir une relation de proximité avec lui, de développer cette relation au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi que, avant d'être capable de comprendre la générosité, on a vécu cette restauration avec Dieu. On a compris comment que Dieu nous a tellement donné et il nous dit maintenant, fais de même avec moi. Et lorsqu'on comprend tout ce que Dieu a fait pour nous, on dit Seigneur, mais je peux te donner ma vie, je peux donner mon argent, je peux te donner mon temps, je peux donner tout ce que je suis parce que tu m'as tellement donné. C'est vrai que dans notre famille d'église, nous encourageons justement pour dire que la dîme n'est plus forcément quelque chose qu'on vit dans le Nouveau Testament, dans le sens de dire, OK, il faut donner le 10%, et que nous sommes plutôt devenus des intendants de Dieu. Mais depuis quelques mois, une réflexion m'est venue un peu dans la tête parce que, comme vous savez, je fais du mentorat avec plusieurs pasteurs francophones à travers le ministère de Church Renewal, et on a parlé justement de comment donner généreusement. Et voici un peu ce que le pasteur Ray, je veux dire, propose et nous encourage aussi par rapport à comment donner généreusement pour le Seigneur. Dans la première lettre à l'Église de Corinthe, Paul exposait l'argument selon lequel, puisque lui et son équipe avaient semé la bénédiction de la semence spirituelle parmi eux, donc parmi le peuple de Corinthe, alors ceux-ci, lequel ils avaient semé, devait semer en retour en bénédiction matérielle pour Paul et son équipe. Et on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Ça, c'est la version second 21. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Donc, on voit dans cette idée de Paul, de ce soutien financier dans de l'Ancien Testament, comment que Dieu disait aussi, vous allez donner une part aux Lévites, aux sacrificateurs. Donc, Paul reprend pour dire, nous avons fait du travail parmi vous en vous bénissant d'une façon spirituelle. Alors, est-ce que nous pouvons recevoir aussi en retour une bénédiction aussi matérielle ou financière de votre part? Donc Paul va dire aussi qu'en soutenant ceux qui apportent la parole parmi les chrétiens, le soutiennent financièrement. Puisque les apôtres et les disciples consacraient leur temps à apporter la parole par la prédication d'enseignement, l'Église pourvoyait à leurs besoins financiers. Et généralement, c'est ce qu'on fait justement aussi un peu dans nos églises, lorsqu'on peut soutenir aussi le pasteur ou les dirigeants pour permettre qu'ils puissent consacrer leur temps à justement guider les membres, guider les brebis vers le Seigneur. Cependant, Paul a enseigné que ce principe fonctionne également en sens inverse. Regardez le prochain dia. Dans sa deuxième lettre ou lettre à l'église de Corinthe, Paul a dit que si les églises des gentils, donc si les églises des gens qui n'étaient pas forcément des juifs au début, partageaient les bénédictions matérielles avec l'église de Jérusalem, alors elle devrait aussi s'attendre à recevoir en retour les bénédictions spirituelles de la prière. Regardez, ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 12 à 14. 2 Corinthiens, là j'ai marqué 1 Corinthiens, je pense que c'est 1 Corinthiens. Si quelqu'un lit, peut-être que je me suis trompé dans le 1 ou 2, mais ouvrez votre Bible, vous regardez, et vous allez me dire si c'est le 1 ou 2. Donc, voici ce qu'il dit. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints. Il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Alors, est-ce que c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? 2. OK, c'est bien ce que j'avais écrit. Donc, c'est bien 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 12 à 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, l'église de Jérusalem était dans un temps difficile. Beaucoup de pèlerins étaient venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. À ce moment-là, il y a eu le réveil, il y a eu la Pentecôte qui est arrivée. Les gens se sont convertis, les gens sont restés à Jérusalem. Donc, ils avaient aussi moins de moyens. Voilà pourquoi que des hommes et des femmes étaient prêts à même à vendre leur propriété pour apporter l'argent pour subvenir aux besoins. Et c'est comme ça que l'Église a continué à grandir. Mais à un moment donné, nous savons qu'il y a eu la persécution. Donc, la plupart des chrétiens se sont éparpillés, mais certains sont restés à Jérusalem, les pèlerins. Mais eux aussi avaient peu de ressources, peu de ressources. Et voilà pourquoi que l'Église de Corinthe, qui n'avait pas encore eu la persécution, ont appris les difficultés financières que l'Église de Jérusalem. Et même s'ils ne les connaissaient pas, ils ont été prêts à donner même au-delà de leur capacité pour pouvoir aider leurs frères et sœurs à Jérusalem. Et Paul va leur dire, ils sont tellement été touchés de leur affection qu'ils prient pour vous. Et en priant, ils demandent la bénédiction sur vous. Le pasteur Ray appelle ça ce principe, le principe de la bénédiction réciproque. Si un croyant ou une église sème une bénédiction matérielle dans une personne ou une église, celui qui sème devra pouvoir récolter une bénédiction spirituelle en retour. Si nous semons quelque chose vers une personne ou vers une église ou un ministère pour donner avec générosité, ces personnes vont prier pour nous bénir et Dieu va nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Parce que Dieu est généreux avec nous et il voit si nous sommes avec l'église envers son œuvre sur terre. Il va bénir ceux qui donnent avec générosité. Que ce soit du côté financier comme du côté spirituel. Donc, si un ministre, un ministère ou une église sème une bénédiction spirituelle dans une autre personne ou dans une autre église, ceux qui sèment devraient pouvoir récolter une bénédiction matérielle ou une bénédiction spirituelle en retour. Voilà pourquoi on soutient aussi l'église. On veut soutenir aussi des œuvres missionnaires. On veut donner des dons pour des églises ou pour des ministères qui passent par des moments difficiles dans des pays pauvres. Et on s'attend en retour à recevoir une bénédiction, même si on ne connaît pas ces personnes. Mais en savant que ces personnes sont touchées par ce que nous leur donnons, et eux, ils prient, dire « Seigneur, moi, je ne peux pas les bénir d'une façon financière parce que j'ai peu, mais je reçois leurs dons et en retour, Seigneur, je prie que tu puisses les bénir d'une façon spirituelle, d'une façon matérielle, parce que tu es capable. » Et Dieu le fait, Dieu le fait. À la prochaine diable, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux de savoir que si nous ne donnons pas, si nous ne donnons pas premièrement pour recevoir quelque chose en retour, c'est vrai souvent des fois dans nos églises, on prêche un peu la générosité ou l'offrande, de dire il faut que vous donnez, vous donnez, donnez, puis après vous allez recevoir beaucoup en retour. C'est pas ça qu'on prêche ce matin, mais de dire Seigneur, tu m'as tellement donné, tu étais généreux avec moi, est-ce que je peux être généreux aussi avec ton œuvre, avec ton église? Nous le voyons dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, vous pouvez le noter, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonneront pas peu, et celui qui sème abondamment, moissonneront abondamment. C'est un principe tout à fait normal, hein? Moi, j'étais agriculteur, que j'étais en Suisse. Si on sème peu, si on met juste quelques graines, ben, on va pas beaucoup récolter. Mais si on sème beaucoup dans le champ, ben, on va s'attendre à une récolte. C'est la même chose du côté aussi financier. C'est la même chose du côté de la générosité. Si nous donnons d'une façon généreuse pour le Seigneur est prêt à nous donner aussi un retour. Ce verset, donc, de 2 Corinthiens 9, 6, est au milieu de la discussion sur le don financier que Paul va parler aux Corinthiens. Donc, voici ce que le pasteur Ray dit. Si la dîme est attendue sous la loi, combien plus est-elle attendue de nous sous la grâce? Et c'est là que j'ai compris, je dis, mais oui, Seigneur, c'est vrai que nous marchons plus sous la loi, mais c'est comme on est tellement dans la grâce de Dieu. Dieu nous a tellement donné. Pourquoi que nous pouvons donner encore plus sous la grâce de Dieu? Donc, nous ne sommes plus sous les obligations ou c'est les lois, mais sous la grâce que Jésus veut nous donner. Quand on considère comment que Jésus a approuvé les veuves qui ont donné tout ce qu'ils avaient, même quelques petits sous, par rapport aux riches qui essayaient de lancer les pièces pour montrer qu'ils donnaient beaucoup. Quand on considère que Paul a dit aux Macédoniens qu'ils ont donné de leur pauvreté, ça signifie qu'on doit, notre don doit généreusement dépasser la dîme. La grâce signifie que nous sommes capables de donner plus de ce qu'ils nous donnaient sous la loi. Pas moins. Et c'est vrai que peut-être ça peut nous déranger. Parce que c'est vrai que souvent, maintenant, aujourd'hui, le fait que peut-être on dit, ben, on ne donnait pas en 10% et comme ça, les gens disent, ah, ben, je peux donner ce que je veux. Mais le Seigneur ne nous demande pas de donner les restes. Il nous donne de demander le prémices, les prémices. Alors Dieu va nous demander peut-être de donner généreusement. Prochain diable, donc, semer généreusement signifie que nous devons aussi semer proportionnellement. Dans le sens que Dieu nous donne à chacun des moyens financiers différents. Il nous demande de donner généreusement selon nos revenus, afin de bénir le travail du Seigneur. En Corinthiens, chapitre 16, verset 2, dans la version Louis II 21. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté de chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Donc, il dit, à chaque semaine, vous mettez de côté les prémices. Mettez de côté les prémices que vous allez donner au Seigneur. N'arrivez pas les poches vides à l'église dans le sens de dire, ben oui, je vais regarder dans mon porte-monnaie. Moi-même, j'étais comme ça avant. Hein? J'arrivais à l'église, j'ouvrais mon porte-monnaie, puis je regardais ce que j'avais, puis je donnais. Puis le Seigneur m'a dit, mais c'est pas comme ça que le principe. Je t'ai donné généreusement. Prépare ton offrande. Prie pour que je puisse te dire combien tu dois donner, qu'est-ce que tu dois donner. Donne avec générosité. Dieu demandait dans l'Ancien Testament de remettre le premier-né du bétail. Il a demandé aujourd'hui de mettre aussi de côté notre offrande, notre dîme, nos prémices, afin qu'elles soient offertes à Dieu en réponse à sa grande générosité envers nous. Lorsque je préparais ce message, j'ai lu dans le dictionnaire biblique d'Emmaüs cette phrase que j'ai mise aussi sur l'écran. Il dit, en voyant ce que le peuple fait avec ses dîmes, les prémices, les offrandes, ne sommes-nous pas confus du peu que nous lui offrons? N'est-ce pas pour cela que nous ne sommes pas davantage bénis? Et là, je ne parle pas de la théologie de la prospérité, comme certains pasteurs vont dire. Quand j'entends cette prospérité, j'entends ces messages et je vois ces pasteurs qui sont dans des rutilantes Mercedes, qui disent donnez plus, vous allez être bénis. Et quand on voit le peuple qui donne, mais qui sont dans la pauvreté, et que lui, dans la richesse, il continue dans la richesse, il continue d'aller chercher l'argent, ça me révolte. Ça me révolte. Parce qu'il déforme la vérité de Dieu. Mais Dieu voit, lorsque nous donnons généreusement, Dieu bénit, Dieu bénit. Et ce n'est pas puisque tu donnes plus que tu vas être plus béni. Non, Dieu va donner en fonction de ce que lui donne. Mais Dieu est tellement généreux avec nous qu'il veut nous donner. Alors souvent, des fois, on calcule. Seigneur, tu vois, j'ai tellement de besoins. Seigneur, tu vois tout ce que j'ai à faire. Le Seigneur dit, donne, et tu vas être béni, tu vas être béni. J'ai déjà parlé une fois, mais je vais vous parler un peu d'une expérience que j'ai vue au début de mon ministère ici au Québec. J'étais dans une conférence, on avait déjà payé quand même assez cher parce que il y avait des orateurs assez renommés qui venaient ou comme ça des États-Unis, donc c'était une conférence assez chère. Et pendant la conférence, à un moment donné, ils ont parlé justement de la générosité et ils ont voulu faire un appel par rapport à donner. Et donc, les gens s'avançaient pour donner. Et puis, moi, j'étais par un soutien financier à ce moment-là. Donc, je marchais par la foi. Je n'avais pas un salaire, entre guillemets, fixe. Et je devais, le jour après, aller réparer ma voiture parce qu'elle avait besoin de réparation et tout ça. Et là, c'était comme j'étais interpellé, puis le Seigneur me dit, mais donne. J'ouvre mon porte-monnaie, je dis, Seigneur, mais si je donne, là, je ne veux pas avoir l'argent pour payer ma voiture. Le Seigneur me dit, donne. Alors, je me suis avancé, j'ai donné ce que j'avais dans mon porte-monnaie ou comme ça. Et le jour après, avant d'aller chez le garagiste, j'avais une réunion avec d'autres collègues du ministère ou comme ça. Je suis sorti de cette réunion pour aller au garage avec un chèque au-delà même de ce que j'avais donné. L'homme qui m'a donné ne savait pas du tout c'était quoi mes besoins. Mais a dit, j'ai eu à cœur de donner, le Seigneur m'a dit de donner un chèque comme ça. Dieu bénit, Dieu bénit. Dieu nous donne des fois même par d'autres personnes. Sandy Crozier nous l'a dit il y a 15 jours, de donner généreusement permet de nous libérer de l'emprise de l'argent sur nous, en étant plus propriétaire de nos biens et de notre argent, mais en étant des fidèles intendants de Dieu, qui gèrent l'argent de Dieu selon les principes que Dieu nous enseigne. Alors oui, si nous voulons restaurer notre relation avec Dieu, un des principes, c'est d'être généreux envers Dieu, de ce comment que Dieu a été généreux envers nous. Alors simplement courbons notre tête maintenant. Et lorsque nous voyons tous ces principes que Dieu avait mis dans l'Ancien Testament pour dire au peuple d'Israël, rappelez-vous, vous êtes partis comme esclaves et je vais vous conduire dans un pays découlant de lait et de miel. Eux étaient des esclaves. Ils sont arrivés dans le pays avec de l'or, de l'argent, avec des biens qu'ils ont pris des autres peuples. Dieu les a bénis. Nous sommes appelés aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, de se rappeler tout ce que Dieu, tout ce que Jésus a fait pour nous. Voilà pourquoi qu'on ne peut pas compter pour dire, Seigneur, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas donner de mon temps. Je ne peux pas te donner plus de mon argent. Je ne peux pas te donner d'autres choses. Tu comprends, tu vois ce qui se passe. Jésus veut nous dire aujourd'hui, lâche prise, lâche prise. Donne-moi afin que tu puisses vivre dans cette liberté. Et Dieu va nous montrer comment que Dieu nous bénit. Dieu va nous révéler des choses et nous allons continuer. d'avancer. Depuis plus de 30 ans que je suis ici dans le ministère, c'est vrai que dans ces dernières années, l'Église a pu pourvoir un salaire, un certain salaire avec nous, qui n'est pas complet, mais Dieu pourvoit. Mais je peux vous dire que j'ai marché dans les années par la foi. Dieu a toujours pourvu. Même si c'est à midi, minuit moins 5, Dieu a pourvu à nos besoins. Et voilà pourquoi que je peux me tenir devant vous dire, si on lâche prise, même du côté des finances, même du côté de notre temps, de tout ce que nous possédons, et dire, Seigneur, c'est à t'appartient. Nous allons voir nos vies changer. Nous allons voir comment nous allons pouvoir bénir aussi l'Église, pouvoir bénir le royaume de Dieu, nous allons pouvoir bénir les ministères, bénir les hommes et les femmes autour de nous, par nos dons, par notre temps, par notre amour que nous avons. Seigneur, on te remercie pour cet enseignement de ce matin qui nous interpelle à marcher avec un pas de foi devant toi. Oui, Seigneur, c'est vrai qu'il y a quelque temps, nous avons rappelé à travers ces fêtes de Pâques tout ce que tu as fait pour nous, comment tu as fait librement, tu es venu sur terre, sachant que tu allais terminer aussi ta vie sur la croix pour nous donner la vie. Tu l'as fait par amour pour nous. Et même 2000 ans plus tard, encore cet amour est encore vrai et nous voulons te remercier parce que nous sommes rassemblés encore ce matin pour se rappeler comment justement que tu es tout pour nous. Tu nous as donné la vie en abondance. Tu nous donnes la santé, tu nous donnes des biens, tu nous donnes une maison, tu nous donnes le souffle de vie jour après jour. Et nous savons comme résultat ultime que nous serons avec toi pour l'éternité. Alors Seigneur, tu devais nous interpeller ce matin à dire, oui Seigneur, tu nous as tout donné. Est-ce que je suis prêt à te donner aussi ce qui m'appartient, ce qui peut être même plus cher? Seigneur, c'est vrai que du côté des finances, de l'argent, c'est un domaine qui est difficile. Mais dans ta parole, tu nous parles souvent de comment donner généreusement, de comment que Seigneur, tu veux qu'on gère l'argent selon toi, non pas selon les pensées humaines, non pas selon ce que nous voyons autour de nous. Alors Seigneur, nous voulons être fidèles à ta parole. Nous voulons, Seigneur, restaurer notre relation avec toi aussi à travers ce domaine de la générosité. Aide-nous durant cette semaine à voir, être prêt à lâcher prise devant toi et à comprendre et saisir que nous te demandons plus. Tu vas nous demander de plus en plus, mais Seigneur, tu vas aussi ouvrir les écluses du ciel pour nous. Lorsque, Seigneur, on va pouvoir lâcher, on va pouvoir t'abandonner tout ce que nous avons entre tes mains, nous allons pouvoir vivre libre devant toi. Nous allons pouvoir être changés, transformés par toi. Alors merci pour ce que tu fais déjà et ce que tu vas continuer de faire. Parce que nous croyons, Seigneur Jésus, que tu vas faire de grandes choses à travers chacun de nous. Merci, merci d'être si généreux envers nous. Merci que nous pouvons, à notre tour, d'être généreux envers toi et envers ton royaume que tu nous as établi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.